El micrófono de Alicia Perris.
En la mañana de la rueda de prensa, me entrevisto con la comisaria de la exposición William Klein Manifiesto en el espacio telefónica, Rafael Estopa. Por razones de su agenda muy abundante, no hubo tiempo para la traducción simultánea, pero aquí les doy un esquema bastante detallado en español de lo que conversamos, seguida de la entrevista propiamente dicha, en francés. Le pregunto a Rafael Estopa, ¿cuáles fueron los criterios para disponer el material del autor? Y me contesta, la idea es intentar reunir toda la vida creativa de William Klein, pintura, fotografía, cine, el grafismo, mostrar hasta qué punto había un vocabulario que atraviesa toda su obra, o hay un vocabulario que atraviesa toda su obra, influida por la idea de arte total. Le pregunto cómo se encuentran la comisaria y el artista en Madrid. Dice, es muy interesante aquí porque las condiciones son las de un museo y por lo tanto hemos traído cosas raras y preciosas. Los contactos originales, obra inédita. Le comento unas declaraciones que Madame Estopa hizo al programa en France Culture de la televisión francesa diciendo que Klein era la figura tutelar de la fotografía del siglo XX. Y me responde, sí, sigo pensándolo, aunque parezca un poco presuntuoso, incluso para un medio reciente como la fotografía, pero por su radicalismo o su radicalidad y la amplitud de su obra, sí, sí lo es. Y ya están también, le digo, sus contribuciones a la publicidad y ¿quién eres tú, Polly Magoo, con la modelo Dorothy McGowan? A lo que me comenta. Después de los años 60 y los documentales, abordó el cine por toda la libertad que le podía dar. Polly Magoo es mucho más que una sátira del mundo de la moda, que se fija en la sociedad del espectáculo. Hay allí un florilegio de géneros, sugerencias de tipo Méliès, de la Nouvelle Vague, la telerrealidad antes de que apareciera realmente. Es de una riqueza increíble. Aparte de frecuentar, le digo, los ateliers de Fernand Léger y André Lhot, estudia en la Sorbonne, el señor Klein, como usted, ¿no? Le pregunto a Madame Estopa. No coincidimos, claro, y se sonríe, por una cuestión de tiempo. Pero las enseñanzas de Léger son importantes en la obra de Klein, en lo teórico y en lo estético. Léger animaba a sus estudiantes a salir del interior y enfocar la modernidad en lo urbano y en temas que nadie tomaba en cuenta en esa época, como por ejemplo el mundo obrero de las fábricas. Y le digo, siempre en París, en las ediciones de Seuil, publica Life is good and good for you, New York. Aquí comienza el lenguaje Klein, Rafael, y contesta, ese es un momento muy importante en la vida de Klein y la historia de la fotografía, muy radical, sin compromisos para con nadie, con la ayuda de Chris Marker, una figura fundamental del cine francés experimental, pudo realizar este proyecto. En la exposición está la maqueta de ese libro nunca antes mostrada al público. Le pregunto ahora, ¿qué obras hay en Madrid después de las exposiciones de Tokio, Roma y Moscú? Y me dice, el corazón de la exposición aquí en Madrid es la serie sobre las ciudades y sus primeras pinturas, las abstracciones, su entrada en la fotografía de la calle, los contactos pintados. Queríamos traer una materialidad de la obra de Klein. Lo importante es el gesto, sus paneles pintados, poco exhibidos, una arquitectura coherente que no le deja repetirse nunca. Le comento a Rafael Estopa que el ruido de fondo está preparado, que forma carne con la muestra, que no es simplemente ruido, que es una especie de gran banda musical, y me contesta que efectivamente esta propuesta auditiva junto con la gran visualidad de la obra de Klein evoca la cacofonía, la vida de la calle a la que tan afecto es el maestro y la realidad deseada por el artista. La comisaria y yo charlamos un buen rato más. antes de que la rueda de prensa tuviera lugar a todos los medios, pero por razones de minutaje lo dejamos aquí, con la invitación a los oyentes del micrófono de Alicia Perris para que visiten la obra de William Klein, Manifiesto, en el espacio Telefónica en la calle Fuencarral de Madrid. Hasta el próximo programa. Pásenlo bien. Shalom. La Fundación Telefónica presenta la exposición William Klein, Manifiesto, dans le cadre de la 23e édition de Photo España à Madrid. C'est la première rétrospective dédiée à William Klein en Espagne. Il s'agit d'environ 240 œuvres. Bonjour Madame Raphaël Estopin, un grand plaisir de vous interviewer en tant que commissaire de cette exposition. Quel a été votre critère pour disposer tous ces matériels variés et généreux de l'auteur ici?
Bonjour. Alors l'idée qui préside à l'exposition, c'était de tenter de réunir toutes les différentes vies créatives de William Klein, puisqu'il a à la fois abordé et successivement la peinture, la photographie, le cinéma, le graphisme. Et donc il y avait vraiment cette envie de montrer chacune de ces facettes et de montrer aussi à quel point il y avait des éléments de vocabulaire comme ça qui traversent toute son œuvre et qui témoignent vraiment de d'une grande cohérence, c'est-à-dire que Klein a été beaucoup influencé notamment par les idées du Bauhaus, à savoir l'idée d'une œuvre d'art totale qui puisse englober les différents médiums en son sein.
Un Gesamtkunstwerk. Comment vous trouvez-vous et cet auteur à Madrid? Si vous vous trouvez bien ici, c'est commode, c'est confortable.
Ah, c'est très... C'est,
la voilà. Salle.
Non, c'est très intéressant parce que les conditions sont celles d'un musée, donc ça nous a permis aussi de pouvoir emprunter des choses rares, précieuses aussi. On a des petits tirages d'époque. Dans la série des abstraits, on a pu aussi montrer les contacts originaux, également ses peintures, ses toutes premières peintures et ses peintures des années 60, donc beaucoup de choses inédites ou alors qui avaient été très rarement montrées.
Vous avez déclaré sur une émission de France Culture que William Klein est la figure tutélaire de la photographie du XXe siècle. Oui, c'est comme ça. Vous continuez à le penser.
À le penser, oui, tout à fait. Oui, ça a été... Alors c'est vrai que ça paraît toujours peut-être un petit peu artificiel ou présomptueux de distinguer une figure comme ça dans l'histoire de la photographie. Même si c'est un médium relativement récent. Mais tout de même, effectivement, il a été vraiment une figure... De par sa radicalité, de par aussi l'ampleur de son œuvre qui a été tout à fait primordiale dans la construction du langage photographique moderne.
Mais il y a aussi les contributions de Klein au monde du cinéma, de la pub, 21 films de fiction et autres, 250 annonces publicitaires, par exemple, qui êtes-vous, Polly Magou, avec la mannequin Dorothy Magoran?
Oui, donc on a aussi voulu vraiment faire une place pour ce pan de l'œuvre, parce que le cinéma, Klein l'a vraiment abordé au début des années 60, après une expérience aussi dans la direction de documentaires télévisuels, et il l'a vraiment... embrasser le genre cinématographique pour toute la liberté que ça pouvait lui donner et aussi d'une façon très, très engagée. C'est-à-dire qu'il a sa première œuvre de fiction, donc c'est Qui êtes-vous, Polly Magou, qui est... Alors, on dit souvent que c'est une satire du milieu de la mode, c'est bien plus que ça, c'est un objet réellement complexe et qui parle au-delà de la mode, de la société du spectacle, et qui est donc une
grande métaphore.
Une force dans ce film qui est absolument au-delà encore... aussi de la verve esthétique dont il témoigne, parce qu'il y a une combinaison et un florilège de genres, autant du film Nouvelle Vague que des inventions à la Méliès, ou de la télé-réalité avant l'heure. Donc c'est une richesse vraiment incroyable et c'est extrêmement contemporain dans le discours.
À Paris, après les pratiques aux ateliers de Fernand Léger et André Lhote, il a étudié à la Sorbonne comme vous, non?
Oui.
Vous avez coïncidé, non?
Mais malheureusement,
non.
À cette époque-là, on n'y était pas à la même époque.
Oui.
Mais oui, cet enseignement de Léger, il a été, je pense, important dans l'œuvre de Klein. Pas tant, j'imagine, pour les fondements esthétiques que ses fondements théoriques, puisque Fernand Léger, vraiment développé cette pensée et encouragé ses étudiants à sortir du studio de l'atelier et à vraiment envisager la modernité et les sujets urbains dans toutes leurs dimensions et surtout dans celles que personne ne regardait à l'époque, c'est-à-dire le monde ouvrier, les usines, etc. Et d'incorporer ces éléments dans le vocabulaire du peintre.
Et puis ce jour à Paris, aux éditions du Seuil, il contacte le cinéaste Fritz Marker et en 1956, il publie Life is Good and Good for You in New York, Transwitness Rivers. Mm-hmm. Le langage Klein a commencé.
Oui, voilà. Ça c'est effectivement un moment tout à fait important dans la carrière de Klein et dans l'histoire de la photographie, puisque ce livre reste... Alors là encore, je vais être assez catégorique, mais comme le plus radical groundbreaking,
j'ai pas assez radical. Non,
voilà, complètement. Bah, c'est quelqu'un de très déterminé. Et ce livre, en fait, il a été effectivement réalisé selon les désirs de Klein, sans compromis, parce qu'il a aussi eu le soutien de Chris Marker, qui était donc cette figure de premier plan du cinéma expérimental français. Et qui était directeur artistique du Seuil, cette édition française. Et donc quand il a vu le projet de Klein, il a dit « bon bah moi je veux publier ce livre ou je claque la porte ». Et donc le livre a pu voir le jour. Et on présente d'ailleurs dans l'exposition la toute première maquette du livre qui n'a jamais été montrée au public.
Quelles œuvres trouve-t-on à Madrid, après Tokyo, Rome et Moscou, à part cette maquette dont vous parlez
oui.
il y a
donc,
un instant.
Et effectivement, la série, le cœur, on va dire, de l'exposition, modes, voilà, le cœur de l'exposition et son centre est dédié à ces séries sur les villes qui sont assez fameuses et auxquelles souvent on réduit un petit peu Klein, mais bon, l'œuvre est très riche. Donc, on a ces premières peintures qui ont rarement été montrées. On a aussi une belle place qui est faite aux abstractions. Donc c'est la façon dont il est entré en photographie après la peinture, donc au début des années 50. Alors il est entré en photographie pas avec un appareil dans la rue, comme on pourrait le croire, mais par ses abstractions géométriques faites en laboratoire, très inspirées aussi de Laszlo Molinács du Bauhaus. Et puis une belle place aussi également faite au contact peint, donc entre des originaux, c'est ce qui est assez rare. Et c'était aussi dans la volonté de ramener un peu de matérialité, de physicalité dans l'œuvre de Klein, parce que quelque chose qui est très important dans son œuvre, c'est vraiment le geste. Et on peut déjà le sentir évidemment de manière très forte dans les photographies. C'est quelqu'un qui est toujours vraiment au centre, qui est très proche de son sujet, qui est complètement en prise. Mais ramener aussi ce geste du peintre sur les contacts peints, aussi la matière de ces panneaux peints des années 60 qui ont été très très rarement montrés aussi et qui encore une fois échafaude comme ça une sorte d'architecture très très cohérente. Il y a ces signes graphiques qui traversent toute son œuvre et qui montrent à quel point il a su développer ces éléments de vocabulaire sans jamais se répéter non plus. Mais je pense que pour le spectateur, le visiteur de l'exposition, quand bien même il serait novice et vraiment pas du tout familier de l'œuvre de Klein, je pense que ses correspondances, elles transparaissent vraiment.
Il faut absolument laisser clair que le bruit de fond qu'on entend, ça fait partie de l'exposition.
Oui,
on n'est pas dans la rue, mais oui. Presque dans la rue par moment.
Oui, oui, mais c'est assez. Je pense que ça retranscrit bien aussi
les moments
la, la, où la cacophonie aussi qui est recherchée par rue. Moment voilà chez Klein, c'est-à-dire que aussi dans son cinéma par exemple pour ceux qui auront la chance de voir Pauli Magou, il joue de cette cacophonie beaucoup au départ dans les scènes du film, tout à fait, dans le
scénario,
dans Mohamed Ali aussi.
Les paysages.
Voilà, exactement. C'est encore une fois, c'est cette idée d'être en prise et vraiment au cœur de sa matière. Donc il y a une sorte de vertige et le son y participe aussi. Ouais.
William Klein est un photographe de mode, chic, à Vogue, mais aussi il embrase la rue comme une confrontation et on dit aussi qu'il salit l'image.
Oui, c'est-à-dire qu'il va, il va faire fi des bonnes manières de l'époque et puis il va vraiment aller presque au corps à corps parfois.
Il faut quand même vivre, survivre.
Oui, oui, oui. Non, et puis il a cette manière qui lui est très particulière, notamment dans les séries sur les villes où il va travailler avec cet objectif grand angle, 28 mm, mais en ne suivant pas ce que cet objectif requiert habituellement, c'est-à-dire une certaine distance. Au contraire, lui, il va aller très très proche du modèle et ça va créer tous ces flous, tous ces bougés aussi.
Cette vue globale des individus dans les tissus urbains.
Voilà, c'est-à-dire qu'il va aussi être là où il a une pratique très inclusive, et c'est aussi pour ça qu'il avait eu du mal à trouver un éditeur américain pour son livre sur New York, c'est qu'il va photographier vraiment des communautés auxquelles habituellement on ne prête pas attention. Donc il y a vraiment effectivement cette idée de photographier l'humanité dans ses grandes largeurs.
Il voyage à Milan et rencontre des architectes comme Angelo Manciarotti. Il essaie la peinture murale et découvre Giorgio Strehler au Piccolo de Milan. Ça, c'est très important et assez peu commun, n'est-ce pas?
Oui, oui, oui.
Dans la vie d'une personne qui commence.
Oui, oui, il était tout jeune. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça dit aussi, enfin, je parlais du Bauhaus tout à l'heure, mais ça dit aussi à quel point il a été enclin très rapidement aux collaborations et à l'idée que son œuvre c'était aussi une matrice qui pouvait être adaptée et c'est quelque chose qui va vraiment traverser tous les pans de sa création, c'est-à-dire des abstraits par exemple. Donc là dans l'exposition on montre aussi les panneaux abstraits qui sont, donc c'est des panneaux rotatifs qui sont la version photographique des panneaux peints qu'il avait fait justement avec Angelo Mangiarotti. Et c'était des panneaux peints qui étaient vraiment appliqués presque à du design intérieur. Hein. Donc, et c'est aussi dans cet esprit-là
le cas de Strehler.
C'est dans cet esprit-là qu'il va aussi, par exemple, collaborer avec Vogue sur une très longue période pour la photographie de mode
là où nous sommes, non? N'est-ce
voilà,
pas
exactement.
Nous sommes entourés voilà. Des merveilleuses femmes.
Voilà, donc là en fait l'exposition elle laisse une bonne place à la photographie de mode avec cette introduction par une sorte de focus sur qui êtes-vous Pauli Magou pour montrer aussi qu'il y a toujours ce sous-texte qui sous-tend toute l'œuvre photographique de William Klein et que cette mode, il a eu aussi un vrai discours dessus sur ce que c'est de faire une image de mode et qu'est-ce que cela implique aussi pour l'auteur qui place ses images dans ses magazines tirés à des millions d'exemplaires puisqu'il a travaillé notamment pour le Vogue américain. Et Pauli Magou, ce qui est intéressant, c'est que c'est cette espèce de constant aller-retour entre réalité et fiction. Et donc dans l'exposition, on présente certaines pièces du film, notamment ses robes et ses prototypes, qui sont encore une fois aussi assez rares. Et puis en face, des photographies de Dorothy McGowan, qui est l'actrice, mais qui est aussi un mannequin très important à l'époque et qui a beaucoup travaillé avec William.
Comme lui disait son maître Fernand Léger, il a finalement rencontré les artistes du Quattrocento italien.
Oui, c'est vrai qu'il a...
C'est lui conseillé toujours de...
Oui, c'est quelqu'un qui... William, qui connaît vraiment très bien la peinture, mais aussi la peinture du Quattrocento. Hier, on est allé voir Guernica avec lui, parce que c'était un... C'est Guernica, comme vous le savez, était au MoMA précédemment, et donc il a grandi avec ce tableau, il fréquentait beaucoup le MoMA.
Il est là, monsieur William Klein,
oui,
à Madrid.
Oui, oui, il est là.
Il va venir.
Oui, bien sûr. Oui,
pour la... pour le vernissage.
Oui. Et donc, il a une vraie connaissance de la peinture et il est très, très sensible aussi au Quattrocento. Alors, non seulement parce que effectivement, il y a eu de très grandes réalisations appliquées à l'architecture au travers des fresques, comme connaît très bien Piero della Francesca,
Masaccio,
et voilà, et cette monumentalité aussi qui est inhérente à ces peintures. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué.
Vous avez été commissaire aussi à Arles, à l'abbatiale des Rouens, etc. Et vous faites part aussi du festival d'hier depuis des années.
Oui.
Ça compte à vous.
Oui, alors je suis directrice d'un centre photographique en Normandie, à Rouen, où je peux développer une programmation à l'année. Et puis, au-delà de ça, j'ai aussi effectivement un travail de commissaire indépendante où je peux développer des projets alors selon les contextes monographiques ou thématiques. Et j'ai eu effectivement la chance de pouvoir... travaillé avec William en deux occasions précédemment, donc une rétrospective à l'abbatiale Saint-Ouen, donc dans un cadre radicalement différent de celui-là, et très challenging parce que justement
avec des dimensions vraiment.
Voilà, une architecture gothique. Alors ça a beaucoup amusé William avec une hauteur sous voûte de 42 mètres.
Surtout donc, pour un Américain.
Voilà, et puis c'est vrai que William Klein est très aime la densité aussi dans les accrochages. Et donc c'était un vrai défi, mais on a fait quelque chose de très probant, je pense, voilà, vraiment très spécial. Et une exposition aussi qui a eu lieu à la Villa Noailles sur Polymagou et justement tout ce sous-texte extrêmement riche de Polymagou.
Klein est un artiste engagé, surtout aussi. Lui-même d'une famille d'origine juive de la Hongrie, il déteste le racisme, l'antisémitisme, il est juif aussi, même s'il n'est pas peut-être orthodoxe comme son père, qu'il a connu aux États-Unis. L'antisémitisme qu'il a connu aux États-Unis. Il montre aussi les différences des classes sociales.
Oui, c'est quelqu'un qui a effectivement été très, très engagé au cours de sa carrière et qui a pu vraiment, notamment au travers de l'œuvre cinématographique, on évoquait très brièvement Mohamed Ali par exemple, mais c'est vrai que il faut s'imaginer ce que c'est qu'un photographe qui travaille pour Vogue américain, donc qui fait vraiment partie d'une forme d'establishment, et qui parallèlement s'engage contre l'intervention américaine au Vietnam de manière très ouverte, qui va faire un film sur Mohamed Ali, qui, alors on pense Mohamed Ali, c'est un boxeur très célèbre, oui. Mais c'était aussi une figure très très militante pour les
et qui rappelle les bas-fonds, toujours. C'est un sport un peu pas très bien considéré, c'est pas du golf.
Mais voilà,
c'est
ça.
C'est pas
non,
très
mais
bien
il a eu une vraie attention aussi pour ces figures de minorité et de gens qui se battent réellement, quoi. C'est-à-dire que Mohamed Ali, c'était aussi une allégorie de ça, quoi. C'était vraiment un combattant dans toutes ses dimensions.
Un self-made man.
Ouais, ouais.
Il continue à travailler à Paris car il est né en 1928.
Mm-hmm. Oui, il est résident à Paris depuis 1947. Déflorer quoi que ce soit, que de dire que voilà, c'est quelqu'un qui a eu des positions, on va dire, anti-américaines, hein, et encore aujourd'hui, hein, il est très critique notamment de la politique étrangère des États-Unis, et c'est vrai qu'il se sent beaucoup plus à l'aise, on va dire, c'est réellement sa ville, et puis même quand il était adolescent et qu'il vivait à New York, il a beaucoup fréquenté le MoMA, la Cinémathèque, et donc il avait cette culture européenne déjà très ancrée en lui, même avant d'arriver à Paris.
Et encore, il a croisé metteurs en scène comme Varda, Lelouch, René, Godard.
Mais c'est quelqu'un qui a toujours été très, très en prise avec son époque et aussi avec les différentes avant-gardes. Et il a, de par sa conception de l'art, qui n'était pas, on va dire, ne marche pas par catégorie. Il a vraiment toujours eu une attention et une ouverture pour différentes disciplines, différents médiums et artistes.
Vous avez remarqué de M. Klein, vous rappelez-vous de l'autre M. Klein, de Joseph Losey, à la télé, son regard enfantin, la source de tous ces beaux regards qu'on lui a envoyés. C'est très beau ça. Quel est votre rapport personnel aussi avec un personnage, un créateur comme William Klein?
Alors, c'est...
Tous les jours, disons, pas seulement au vernissage.
Non, bien sûr.
Le travail quotidien.
C'est quelqu'un, alors il y a William, effectivement, il y a son studio aussi, qui est composé de deux personnes, et qui aussi sont des personnes qui connaissent très bien ses archives, avec lesquelles il est très intéressant de collaborer. Et puis c'est vrai qu'avec William Klein, ce qui est assez passionnant pour un commissaire d'exposition, c'est que il y a
beaucoup à choisir.
Il y a une matière qui est incroyable, qui est assez infinie.
Beaucoup de temps.
Oui, mais ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a vraiment une latitude pour interpréter l'œuvre. C'est-à-dire que comme c'est toujours quelque chose qu'il a lui-même incorporé dans sa conception de sa propre œuvre, comme les contacts peints par exemple, on montre ici les originaux, mais les contacts peints, ils ont été d'emblée pensés comme une forme de matrice qui pouvait être agrandie de manière monumentale. Donc il y a cette capacité à jouer aussi avec cette matière et à l'interpréter. Donc cette latitude, elle est vraiment très appréciable, ce qui fait que à la fin, effectivement, ça donne lieu à des réelles collaborations.
Vous voulez ajouter quelque chose d'autre pour terminer notre interview?
Alors, vous me demandiez si j'étais bien à Madrid. Oui, je pense que cette exposition-là, elle est assez spéciale pour moi, au regard aussi des précédentes qu'on a pu faire, parce que elle est vraiment... je pense qu'elle arrive à englober comme ça toutes ces... faire une sorte de liaison entre toutes ces vies créatives et alors c'est pas par flatterie que je vais dire ça, mais la Fondation Telefonica elle a aussi permis de produire de nombreuses œuvres et
c'est voilà, pour la première fois en Espagne,
voilà,
je crois,
voilà, et c'est aussi vraiment très intéressant. Oui, non, mais ce qui est vraiment très intéressant, en fait, c'est que ça a permis aussi de sortir des images qui sont moins... Voilà, ça a permis de sortir un peu des sentiers balisés, et ça, c'est quelque chose qui est très précieux.
Voilà. Un grand merci, c'est vraiment un énorme plaisir et un honneur. À la prochaine, j'espère. Shalom.
Merci à vous.